CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce MAG où on vous parlera des abeilles, notamment réunion d'information technique ce vendredi au château de Nègrepelisse autour du Varroa. C'est deux ruchers écoles, celui du CPE Quercy-Garonne et Pollen qui nous propose cette réunion d'information technique. On parlera donc abeilles et Varroa et on en profitera pour célébrer l'obtention de la troisième abeille de la commune de Caylus au label apicité de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Ce sera juste après, oui, parce qu'on est mardi, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On est avec Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause d'un film d'animation jeunesse et adulte, Ma vie de courgette de Claude Barras. Film réalisé en stop motion pendant près de 2 ans et qui obéit à cette ambition commune à certains films d'animation, celle de sortir des carcans habituels de la production de masse pour, ici, aborder de front des questions difficiles, comme l'enfance en foyer, l'abandon ou la mort des parents, et les mécanismes délicats de la reconstitution. Le tout fait à hauteur d'enfant, en prenant le parti pris de ne pas directement s'adresser aux adultes et en laissant la parole aux gamins, et en les laissant s'exprimer à leur manière les failles qu'ils ont à combler. Si Courgette n'a rien à des légumes, c'est un vaillant petit garçon, il croit qu'il est le seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Juju, Alice et Béatrice, ils ont tous leur histoire et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Et quand on a 10 ans, se refaire des copains et tomber amoureux, c'est tout un tas de nouvelles choses à découvrir et à apprendre. Avec, en plus, pourquoi pas, la possibilité de se laisser être heureux. Les décors simples, entendez sans aucune volonté de réalisme, de même que les personnages assez caricaturaux dans leur esthétisme, voire leur morale pour les adultes, nous rapprochent du conte de fées, et permet ainsi de s'identifier aux personnages plus facilement. Ça crée une dynamique enfantine dans le récit. Pourtant, en simplifiant les traits de chacun, le réalisateur fait ressortir l'émotion des enfants, dont l'adulte a tant à apprendre, par leur fragilité certes, mais surtout par les élans irrépressibles qui les poussent à la guérison. Il y a aussi cette naïveté dans le vocabulaire sortant de la bouche d'une enfance qui a gardé malgré tout une certaine innocence et qui rend l'œuvre légère malgré les thèmes abordés. Courgette, c'est une plante qui arrive malgré tout à percer le béton. Et ça, c'est à la fois beau, tendre, émouvant, touchant. On distinguerait presque les petits cœurs des gamins battre sous la pâte à modeler. Et juste pour ça, il faut le voir. À partir de 8 ans, et c'est mieux avec les parents. Et tout de suite, on enchaîne avec non pas un livre, mais toute une tripotée de documentaires pour la jeunesse sur les loisirs créatifs. On en a pour tous les goûts et tous les âges. Dans le bricolage pour les 6-10 ans, il y a des activités qui vont de la tirelire catapulte en forme de monstre qui mange des pièces aux cartes pop-up de Noël toutes pleines de sapins et de neige, en passant par les masques papillons. Bref, de quoi occuper les grands petits pour un bon moment. Dans Merveilles du Japon, on verra comment fabriquer et décorer des cadres à photos Tori, des lanternes Kokeshi ou encore des éventails Sensu. C'est à la fois simple, mais terriblement efficace, même si parfois un petit coup de main des parents sera nécessaire. Il y en a pour fabriquer les meilleurs avions en papier qui soient, de par leur efficacité et leur esthétique. On y apprend les différentes propulsions possibles pour faire voler ces avions à la technologie de papier. Sinon, dans Do It Yourself pour les enfants, on va carrément apprendre à fabriquer dès les premières pages une batterie avec des seaux et des bouteilles. La fabriquer, hein, pas en jouer. On peut y voir comment faire des avions à hélice, bref, tout un tas de livres à retrouver sur l'ensemble du réseau des médiathèques, ainsi que Ma vie de courgette de Claude Barras, qui vous y attend gentiment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.
Merci Victor. Toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont bien sûr à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Et la suite de ce MAG, c'est après la musique. We go out in stormy weather.
is like nothing you ever seen. Your sweet talk like a cop, and you know it. You bought a new bag of pots, so let's make a new start. And that's the way to my heart, to the way to my heart. That's the way we get by, to the way we get by. That's the way we get by, to the way we get by, to the way. But that's the way we get by. That's the way we get by.
Le mag.
De retour dans ce mag où on va vous parler d'une conférence qui se tiendra ce vendredi à 18h au château de Nègrepelisse, une réunion d'information technique autour du varroa, ce parasite qui extermine nos abeilles. C'est une conférence qui est proposée par le CPIE Quercy-Garonne, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de Caylus. Gaëlle Mathura est coordinatrice du Rucher École. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Lisa.
On va parler de cette convention, de cette conférence. On va inviter les auditeurs à vous rencontrer ce vendredi après une célébration, celle de l'obtention de 3 abeilles au label Apicité de Caylus. C'est un label qui est décerné par l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs, Français, de l'Apiculture Française. Je ne sais plus.
Union nationale de l'apiculture française.
Qui est, où il s'agissait de répondre à un questionnaire pointu autour de la protection des abeilles sur la commune. Si j'ai résumé, c'est à peu près ça.
C'est ça, et on va compléter en suivant ensemble.
Faisons ça. Alors, ce label, vous l'avez obtenu là, fin d'année dernière.
Alors, le label, on a reçu la réponse. Donc là, la commune de Caylus a reçu la réponse en novembre 2023, puisque c'est habituellement à cette date qu'est décerné le label. Il est donné pour 2 ans. Et donc, ce n'est pas la première fois que la commune de Caylus a proposé sa candidature à ce label, puisqu'on l'a depuis 2017. Mais là, nous sommes montés d'un cran, puisqu'auparavant nous avions 2 abeilles. Quand je dis nous, c'est évidemment la commune et le Rucher École, puisqu'on est partenaire sur ce projet, mais c'est la commune qui porte le label Apicité. Et donc vous avez dû voir à l'entrée du village de Caylus, il y a un petit panneau Apicité, 2 abeilles. Et bien maintenant, on peut rajouter une 3e abeille, et la commune est reconnue pour sa démarche remarquable en faveur des abeilles mellifères et des pollinisateurs.
Alors, action dans quel domaine? Je parlais des 40 critères.
Donc oui, pour candidater sur ce label, il y a 40 critères. Donc il y a une partie des critères qui est vraiment de l'action de la commune. Donc on va dire qu'il y a une grosse partie qui est sur la gestion des espaces verts, entre autres avec l'application du zéro phyto, à la fois pour l'entretien des espaces publics, les rues, les trottoirs, mais il ne faut pas oublier l'entretien des cimetières. C'est pareil, on est en zéro phyto. Toute la politique aussi de fleurissement de la commune. Donc, Caylus a fait le choix de mettre en place des plantations vivaces et adaptées à la sécheresse. Et une partie de ces plantations sont des plantes mellifères, donc qui profitent aux pollinisateurs. L'an dernier, il y a eu des plantations de tilleuls. Et puis, la commune a fait attention à ce que ce soit des tilleuls locaux, donc des espèces locales, bien adaptées au sol, et puis surtout des espèces mellifères, puisqu'il existe une espèce de tilleul qui est, pas nocive, mais toxique pour les abeilles. Mmh. Donc voilà, la commune n'a pas implanté ce tilleul-là. Donc ça, c'est très intéressant.
Ça, ça faisait partie des critères positifs. Après, dans la grille de l'obtention de ce label, donc la grille de l'UNAF, il y avait aussi des critères tels que mange bio à la cantine.
Oui, voilà.
Ou là, c'est pas le cas, mais ça s'autocompense.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, les critères en faveur de l'abeille et des pollinisateurs sont larges. Donc il est question de savoir si dans les cantines, les enfants mangent bio au moins une fois par semaine ou plus. Donc c'est pas le cas sur la cantine de Caylus. Mais le questionnaire, il valorise quand même le fait qu'il y a une part de l'alimentation qui est mise en œuvre, qui vient de producteurs locaux. Donc locaux, on va dire départemental et régional, mais la viande ne vient pas du fin fond de la Chine. Donc ça participe à l'obtention du label apicité. Donc parmi 40 critères, on ne va pas vous détailler les 40 critères ici aujourd'hui, mais quelques-uns seulement.
Et donc, célébration de l'obtention de cette troisième label abeille qui vous le manquait au label en partenariat, un partenariat donc de la mairie et du CPE Quercy-Garonne, puisque c'est dans le cadre du CPE qu'est porté le rucher école, le rucher pédagogique que vous coordonnez au quotidien, qui propose donc des cours d'apiculture chaque mois.
C'est ça, donc à peu près une fois par mois ou deux fois par mois, ça dépend des saisons. Des cours d'apiculture pour adultes, je précise, donc pour apprendre à bien gérer ses colonies, savoir ouvrir des ruches en sécurité, connaître la biologie de l'abeille et son anatomie, le fonctionnement d'une colonie. Donc ça, c'était le cours de février, hein, où ils ont eu... Les nouveaux élèves ont eu quelques heures sur l'anatomie et la biologie, sont ressortis avec une belle migraine. Mais bon, on va répéter ça tout au long de l'année, donc voilà. Et dans le cadre du label apicité, eh bien, le label ne peut être obtenu que si la commune soutient des actions directes sur son territoire en faveur de l'abeille mellifère. Donc là, c'est le cas, puisque la commune nous met à disposition le terrain, comme je le dis à chaque fois, nous prête la salle des fêtes et nous fait plein de facilités. Donc sans la commune de Caylus, le rucher école, il ne pourrait pas fonctionner aussi bien que ce qu'il fonctionne actuellement. L'exemple, c'est au mois de juillet, on fait la journée extraction, donc on met du miel partout. Et là, si on n'avait pas la salle des fêtes avec la cuisine, où on peut faire le grand nettoyage, la grande vaisselle, ben, ça ne serait pas possible. Les locaux du CPE, sont, bien qu'ils soient tout beaux, tout neufs, ne sont pas adaptés pour ça. Et puis sur le rucher, bien... Il y a deux ruches qui sont les ruches de la mairie. On va dire que ce sont les abeilles typiquement caylusiennes. Ça rentre aussi dans le critère du label apicité, c'est que la mairie prenne en charge quelques ruches sur le rucher école. Et donc voilà, donc on est content, on est fiers de porter ça ensemble avec la commune. Et puis c'est beau les abeilles, c'est bien d'avoir ça sur sa commune.
Le varroa, par contre, c'est un peu moche, ce parasite qui sera le sujet de la conférence, de la réunion d'information technique que vous allez proposer ce vendredi. Alors là, pour le coup, en partenariat avec un deuxième rucher école, celui de Pollen, celui de Nègrepelisse, on va développer le thème de cette conférence de vendredi, juste après la musique, dans ce mag, toujours en compagnie de Gaëlle Mathura, qui est coordinatrice du rucher pédagogique du CPIE de Caylus.
On the top of the ride, in the bright red sky, we've been getting so high. Oh my gosh, we've been going for days, in the champagne haze, give me one more taste. Oh my gosh, it ain't the time to be alone, so blow a kiss, don't let it go. Love is all we got, so come on, fill your cup. Cause love is all we got, it ain't fading, fading. Love is all we got, don't waste a single drop. Yeah, love is all I got, it ain't fading, fading now. It ain't fading, fading. It ain't fading, fading. We're floating on dreams. Dive so deep, keep running with me. Let's get lost, let's get lost. It's a beautiful life in a sea of lights. No space, no time. Oh my gosh, it ain't the time to be alone. So blow a kiss, don't.
CFM Kélus, le mag.
On est bien dans le mag pour une deuxième partie consacrée à une réunion d'information technique, une conférence qui tiendra ce vendredi à 18h à l'auditorium du château. Une conférence autour du Varois, une conférence qui nous est proposée par le Rucher École, le Rucher pédagogique du CPE Quercy-Garonne de Kélus, en partenariat avec l'autre Rucher École de Nègrepelisse. Il s'agit de Pollen. Et pour en parler avec nous, on retrouve Gaëlle Mathura, la coordinatrice de ce Rucher École de Kélus. Alors le Varois, c'est très très moche, mais à part ça, qu'est-ce que c'est?
Alors le Varois, c'est vrai qu'il n'est pas appétissant, c'est un acarien parasite qui est arrivé dans les années 80 en Europe. C'est dû aux échanges commerciaux apicoles, hein, les échanges de ruches, les ventes d'essaims. Il vient d'Asie et il a conquis toute la planète. Donc le dernier pays à avoir été conquis dans les années 2000, et ben, c'est l'Australie, qui pensait en être exempt jusque-là. Et puis ben non, il y a du varroa en Australie. Et il y a du varroa à Kélus et il y a du varroa à Nègrepelisse. Donc c'est un gros problème sanitaire au niveau des ruches. Depuis l'arrivée du varroa, c'est plus compliqué de faire de l'apiculture. Et donc les deux ruchers écoles que nous sommes, celui de Kélus et celui de Nègrepelisse, il nous a semblé indispensable de proposer une réunion technique ou conférence, vous l'appelez comme vous voulez, qui présente qu'est-ce que c'est que cet acarien parasite, comment il fonctionne, comment il impacte l'abeille et sa larve, et puis qu'est-ce qu'on met en œuvre. Alors pas pour s'en débarrasser parce que c'est pas possible, mais en tout cas pour réduire ses populations au sein de la ruche le plus possible.
Alors qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il les tue, hein? Il les parasite?
Alors il les parasite, en fait le varroa il se pose ou sur l'abeille adulte ou sur la larve qui est enfermée dans son alvéole qui est en train de se transformer en nymphe, et il prélève à la fois de l'hémolymphe, l'hémolymphe c'est le sang des abeilles, et il prélève aussi ce qu'on appelle du corps gras. Et le corps gras, c'est des amas, mais pas vraiment graisseux, c'est plutôt des amas protéinés qu'il y a dans le corps des abeilles et des larves, et qui est indispensable à la survie du varroa et qui est aussi indispensable à sa maturité sexuelle. Et ensuite, le varroa se reproduit à l'intérieur des cellules des larves d'abeilles. Et une fois que les varrois sont nés, ils ressortent de la cellule au moment où l'abeille en sort elle aussi sous forme adulte, et chaque varroa va reparasiter une autre abeille, va re-rentrer dans une autre cellule où il y a une larve, va à nouveau se reproduire, et donc la dynamique de population est exponentielle chez le varroa. Donc si on ne fait rien, et bien la colonie qui va être trop parasitée va s'affaiblir et va en mourir. Alors évidemment les colonies elles n'en meurent pas à la belle saison, parce qu'à la belle saison la reine elle pond beaucoup, jusqu'à 2000 œufs par jour au printemps. Donc, il y a de la nouvelle abeille qui vient remplacer les décrépits et les parasités. Par contre, quand on va être en hiver, il n'y aura plus de ponte. Et là, l'impact du varroa va faire que les colonies vont subir ce qu'on appelle la mortalité hivernale. Et au printemps, on trouve les colonies mortes avec plein de réserves de miel. Donc, on se dit, mais comment ça se fait que c'est mort? Elles avaient de quoi survivre? Et en fait, non, elles étaient trop parasitées par un varroa.
Et alors, ce n'est pas faisable de s'en débarrasser complètement. C'est ça que vous venez nous dire, hein?
C'est ça, donc on aimerait bien, mais en fait on n'y arrive pas, parce que le parasite est tellement bien adapté à sa survie à l'intérieur de la colonie. Par exemple, il faut savoir qu'il émet une hormone qui a la même odeur, entre guillemets, hein, que l'hormone des abeilles. Donc quand il se balade au milieu de la colonie, ben, les abeilles ne le détectent pas, puisqu'il renifle pareil, on va dire. Donc on arrive à faire baisser la population avec des traitements, alors, ou des traitements chimiques, ou des traitements reconnus en agriculture biologique, ou des actions physiques qu'on fait à un moment donné sur la ruche. Et voilà, on arrive à baisser la population du varroa, qui fait qu'à un certain nombre de varrois, il est moins impactant pour la colonie, et on peut quand même produire du miel, et on peut faire survivre sa colonie. Mais il y aura quand même une certaine quantité de varrois au sein de la ruche.
Et alors là, la réunion d'information, la donc conférence de ce vendredi à 18h à Nègrepelisse, c'est autour de quels produits phyto on peut acheter pour essayer de zigouiller au maximum tout ça? C'est à propos de quoi?
Alors la conférence, déjà la première partie, c'est vraiment connaître le parasite, comprendre comment il vit dans une ruche, comment il se reproduit, parce que tant qu'on ne connaît pas sa biologie, ben, on ne peut pas comprendre pourquoi on met en place une certaine lutte et pourquoi on demande aux apiculteurs d'agir à tel moment et de telle façon. Parce évidemment, cette lutte, elle est en rapport total avec la biologie du parasite. Donc d'abord, c'est comprendre le parasite, les conséquences, reconnaître dans une colonie quand elle est morte du varroa, parce que des fois, on va dire, oh ben non, mais ma colonie est morte d'autre chose. Et non, c'est bien dû, c'est une conséquence de la varroise.
Alors, on les voit, il y a des petites taches rouges sur le dos des abeilles.
Alors, on les voit, mais quand on voit le varroa, c'est qu'il est trop tard.
C'est énorme. Ouais.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la colonie, elle est impactée par varroa, mais surtout, c'est que chaque fois que varroa va mordre la cuticule des abeilles ou des larves, la peau, et qui va aller ponctionner sa nourriture sur les abeilles, il fait rentrer des virus dans l'organisme de l'abeille ou de la larve. Et souvent, la colonie, elle meurt de cet impact viral avant de mourir du parasitage direct par varroa. Voilà. Mais ça, il y a des façons de le voir aussi. Et donc, dans un deuxième temps de conférence, c'est quels sont les moyens de lutte actuels, les conseils qu'on peut donner, soit si on veut utiliser du produit chimique vétérinaire classique, soit si on veut s'en affranchir et traiter en bio. Des conseils aussi par rapport à l'expérience qu'on peut avoir, chose qui marche plus ou moins bien, par rapport au climat, à la saison. Et après, des questions ouvertes viendront clôturer la conférence. Et le Rucher École de Nègrepelisse, qui lui aussi, est dans cette commune, est aussi apicité, il faut le dire, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait cette conférence, ce partenariat. Le Rucher École de Pollen offre l'apéro aux participants parce que on va avoir tellement le moral plombé par le varroa que ça va être bien de finir sur une petite note plus sympathique.
Et pour revenir à ça tout de suite, sur une petite note un peu plus sympathique, là, les abeilles, elles sont en train de dormir. Alors non, il fait chaud. Hein.
Il fait très doux, donc là, elles sortent. Et puis les premières floraisons sont là. Donc on a... Il y a quelques violettes qui sont sorties. On voit des pervenches qui ont commencé à fleurir aussi le long des murs, là, bien exposés sud. Les amandiers sont fleuris, donc elles vont sur les amandiers. Elles allaient déjà sur les noisetiers qui, eux, sont plutôt en fin de floraison. Et puis les prunus, ces pruniers sauvages qui font des fois des toutes petites prunes jaunes, là, très acides. Il y a des prunus qui commencent déjà à être en fleurs. Donc l'abeille rentre du pollen. Donc la reine commence à pondre et la saison démarre, tout doucement, mais la saison démarre.
Un peu en avance, non ?
C'est un peu en avance, mais l'an dernier, c'était pareil, et il y a 2 ans aussi. Donc, on va dire que l'avance des saisons se confirme. Et après, il faut imaginer que là, sur le pourtour méditerranéen, il fait 20 degrés depuis plusieurs semaines maintenant. Et je serais curieuse de savoir où en sont les ruches en bord de Méditerranée avec cette douceur.
Donc les abeilles profitent du pollen qu'elles peuvent avoir avant que ce soit la grande sécheresse et qu'il faille leur amener de l'eau avec du glucose devant les ruches. Ne pas oublier de les mettre à l'ombre, parce qu'avant on avait tendance à les mettre au soleil, mais en fait c'est trop chaud maintenant.
C'est ça.
Comme quoi j'apprends des choses grâce au Rucher École. On peut en apprendre encore largement davantage si on s'inscrit à l'année. Alors bon, là, cette année, c'est clairement trop tard.
Voilà, c'est clos.
Il faut s'y prendre sacrément à l'avance pour bénéficier des cours que propose le rucher pédagogique du CPIE Quercy-Garonne. C'est notamment grâce à ce rucher que la commune de Caylus a obtenu ses 3 abeilles au label apicité, label décerné par l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Et c'est aussi grâce au CPIE Quercy-Garonne et à l'autre rucher école pollen de Nègrepelisse qu'on va pouvoir avoir cette conférence autour donc, du varroa, cette saleté. Réunion d'information technique. Conférence ce vendredi au château à partir de 18h. Gaëlle, on vous retrouve là-bas.
Oui, c'est ça. Et l'entrée est libre.
Absolument. Merci beaucoup Gaëlle et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera comme d'habitude rediffusé à 18h ainsi qu'à 21h et à réécouter sans modération en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Là, c'est les infos.